On accueille maintenant Alicia au 3921. Bonsoir Alicia.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous Alicia?
Je ne peux pas vous le dire, je vous ai déjà dit que c'était assez personnel et que je ne pouvais pas me permettre. J'ai déjà eu un contact avec vous, rappelez-vous, par rapport à une maison d'arrêt.
Par rapport à quoi, pardonnez-moi?
À une maison d'arrêt.
Une maison d'arrêt?
Oui, prison.
Par rapport à une maison d'arrêt. D'arrêt.
Oui, d'accord. Prison.
Une prison. Prison, d'accord.
Oui, on en avait déjà discuté, moi et ma fille. Vous nous avez pris à part. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Si, si, je me souviens. Votre fils est décédé au mitard.
C'est ça, voilà. Et vous m'aviez dit de vous rappeler quand j'avais du nouveau.
Oui.
Oui, j'ai du nouveau. Et croyez-moi, c'est du lourd. Alors, il va falloir prendre le temps de m'écouter.
Mais je suis là pour ça, Alicia.
Alors, sur un dysfonctionnement, tribunal, jugé aux assises, mon fils a été accusé comme violeur, sans preuve, et sur les paroles dites de sa femme, et de mauvais père de famille, auprès de ses deux enfants. Un paiement de 40 000 euros qu'on lui a demandé de dommages et intérêts pour ses deux enfants. En plus, aucun droit de voir ses enfants pendant qu'il était détenu. Il a eu une interdiction sur le territoire de la ville de Caen où se trouvaient sa femme et ses enfants. Il a été condamné à 10 ans. Dans chaque prison qu'il a fait, mon fils, il a été manipulé par plusieurs de ces personnes, du personnel qui fait partie de ces prisons. Il a été victime de toutes sortes de violences, que ce soit physique ou autre. Ils se sont mis à plusieurs pour lui empoisonner pendant son séjour et sa détention dans toutes les prisons où il a été. Présents ont fait pression sur mon fils pour qu'il craque, pour faire en sorte qu'il mette fin lui-même à sa vie, en sorte de dire qu'il s'est suicidé. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, mon fils, sur mon fils. On n'a donné aucune chance à mon fils. Tout être humain a le droit à ses erreurs. Mon fils a payé cher les siennes. Le 12 avril, c'était son anniversaire. Il est né avec sa sœur jumelle. Il ne fait plus partie de ce monde. Depuis le 14 avril, dans la nuit du 15 à minuit et demi, dans l'année 2022, est-ce que c'est au mitard ou dans une cellule où on l'a ramené, on ne sait pas. Je dois trouver des éléments. Après, je vais porter plainte contre la dernière prison qui s'est trouvée. En tant que sa maman, je connais mon fils. Il était fort et un cœur rouge entier. À ce qui paraît, il y a une lettre où il a écrit ses derniers mots et ses volontés. Et son dernier soupir avant de mourir, un surveillant a dit « on va te plier ». Il avait les mains attachées dans le dos et on l'a placardé dans le mur. Qu'est-ce que mon fils a fait pour mériter tout ça? Toute cette histoire a été fondée par sa femme. Elle lui a fait beaucoup de mal, l'a fait volontairement pour le détruire. Elle a réussi. Sa dépouille est en terre, mais pas son étoile. Il y aura une suite. Et j'ai reçu un courrier des détenus. Je peux vous la lire?
Alors, le problème, je vais vous dire, c'est que vous lisez les choses, là, Aïcha, et je pense que la dernière fois que je vous avais eu, on comprenait beaucoup mieux les choses quand vous parliez directement. Vous voyez, parce que là,
oui,
vous parlez, et donc c'est un peu un ton monotone comme ça, et on a du mal à... Vous comprenez
mais
ce
moi...
que vous avez écrit, vous voyez, mais... Nous...
Mais moi aussi, j'ai du mal à comprendre tout ça.
Ben oui, j'entends. Mais c'est peut-être mieux que je vous pose des questions plutôt que vous lisiez des choses, vous voyez?
Allez-y, posez-moi des questions.
Ben oui, parce que là, vous me dites donc du souvenir que j'ai de votre intervention. Votre fils, donc, on vous a appelé et dans des conditions assez terribles, me semble-t-il, parce que je ne veux pas faire d'erreur, mais il me semble que votre fille, la sœur jumelle, donc de votre fils défunt,
oui,
a reçu un coup de téléphone tout à fait froid, en disant, voilà, votre frère est mort, il s'est suicidé, point barre. Il faut venir chercher sa dépouille ou enfin quelque chose d'assez horrible. Donc je me souviens très bien, puisque j'avais eu votre fille au téléphone. Quels sont les éléments que vous avez en plus aujourd'hui quant aux circonstances dans lesquelles votre fils est décédé? Puisque déjà à l'époque, vous, mais aussi, et je dirais surtout sa sœur, m'avait dit que jamais son frère ne se serait suicidé. Et qu'il me semble me rappeler qu'elle l'avait vu 48 heures ou en tout cas quelques jours avant et qu'il allait très bien.
Alors, moi, j'avais eu un coup de téléphone de mon fils avant qu'il meure.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il m'avait déjà dit qu'il avait une embrouille avec un responsable.
Un surveillant?
Un surveillant, oui. Et moi, qu'est-ce que je lui avais dit? Parce que mon fils, il disait toujours, tout va bien, tout va bien. Et moi, je lui disais non. Et si tu peux me rendre un service, Nicolas, tu vas donner mon numéro de mobile à ton collègue de chambre. Ce qu'il a fait.
Oui.
Il a donné quelques temps avant de mourir à son collègue mon numéro de mobile. Je suis restée en contact avec cette personne-là,
d'accord,
donc la famille. Et ils m'ont envoyé un courrier de tous les détenus, de ce qui s'était passé le jour-là.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un problème avec un surveillant et qui l'ont pris en grippe, alors, ils l'ont attaché.
Ils ont commencé à être en colère suite à une fougue dans sa cellule. Elle a dû vous en parler, ma fille.
Mm-hmm.
Amené au mitard une fois là-bas, il s'est calmé. Je l'ai entrevu.
Il y avait une histoire de cannabis, je me souviens.
Oui. Au repas du soir, il allait très très bien. Ça, c'est un détenu qui parle. Nous sommes tous dans le flou et on ne comprend pas tout. Tout. Mon soutien, toute ma force pour votre famille de la part de tous les détenus. C'était une bonne personne et beaucoup l'appréciaient. Bon courage à vous du fond du cœur. Apparemment, il y a eu un surveillant qui l'embrouillait. Je suis la dernière personne qu'il a vue quand il était au mitard. Tous les détenus ont dit, nous sommes tous dans l'incompréhension totale. Oui, car il aimait trop la vie. Je sais qu'il ne s'est pas suicidé. Il a été pendu.
D'accord, donc ce sont des accusations très graves que ces détenus portent.
Oui, et cette personne-là a dit, je vais me battre et je vais faire tout pour lui faire justice. Et après, il m'a dit, je dois trouver des éléments, qu'il a dit. Après, il a dit comme ça, une lettre où il a écrit ses derniers mots et ses volontés et son dernier soupir avant de mourir. Donc, il y aurait
encore
possible, une
lettre
là-bas.
C'est pas possible. Ça, c'est quelqu'un qui l'a écrit à sa place. Vous l'avez eu, cette lettre? Vous l'avez lu, cette lettre?
Oui, on l'a eu, je l'ai eu, mais on a beaucoup de mal à déchiffrer parce qu'il y a des traits partout.
Ah bon?
Oui.
Est-ce que vous reconnaissez l'écriture de votre fils?
Oui, je reconnais l'écriture de mon fils parce que j'avais des lettres dans le passé, je les ai mis à côté et c'est mon fils qui a écrit.
D'accord.
Mon fils avait beaucoup de mal dans le français, il y a plein de fautes et dans cette lettre-là, c'est rempli de fautes. Et il avait du mal à s'exprimer et je reconnais l'écriture et comment il exprimait ses lettres. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Bah, j'ai du mal à en penser quoi que ce soit. Vous savez, je n'ai pas assez d'éléments. Ce que je connais pour avoir recueilli la parole de certains détenus, mais aussi de certains surveillants qui se sont vus blacklistés, qui se sont vus menacés, pourchassés, je dirais, harcelés, parce qu'ils ne voulaient pas prendre, ils ne voulaient pas participer à des bastonnades. Vous voyez, ils assistaient à des 4-5 surveillants qui rentraient dans une cellule et qui frappaient un détenu. On leur demandait, voilà, les deux surveillants auxquels j'ai parlé, c'était à Lille à l'époque. C'était avant que la prison de Los Lelil ferme. Il y avait Los Lilil, il y avait une autre prison, mais alors je ne me souviens plus. Ça avait fait l'objet d'ailleurs d'une dénonciation et c'était passé dans la presse. Hein. Il y avait eu, je me rappelle, à l'époque, les chaînes d'infos avaient suivi ça parce que tous les surveillants étaient venus soutenir leurs collègues. Il y avait 3 ou 4 oui, collègues. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Bon, moi, je connaissais 2 surveillants qui étaient impliqués dans cette histoire, mais qui étaient impliqués en tant que témoins. C'est-à-dire en tant que personne qui dénonçait les faits et gestes de ces surveillants qui s'étaient, ils s'étaient donné un surnom en rapport avec les Allemands sous l'occupation. Vous voyez, donc c'était du lourd. Ça veut dire que ce qui s'est passé là, ce dont on parle là ce soir, fait comme on appelle jurisprudence. C'est-à-dire que si c'est arrivé une fois, ça veut dire que ça arrive, que ça existe. D'accord ?
Mais ça a dû arriver à d'autres détenus.
Bien évidemment, bien évidemment. Cela ne remet pas en...
Les autres parents ne se sont pas défendus. On laissait peut-être tomber.
Mais c'est... Vous savez, je vais vous dire, malheureusement...
Vous savez, moi, je n'ai pas peur de me battre pour aller jusqu'au bout.
Alicia, si vous n'avez pas peur...
Non.
Il faut me dire dans quelle prison ça a eu lieu, ça, déjà. Il faut que...
À Yvonne.
À Yvonne.
Dans le sud, près de Poitiers.
D'accord. Donc c'est une maison d'arrêt ou c'est une centrale,
Une centrale.
D'accord. Donc pour les longues peines.
Oui, voilà, parce qu'il a eu quand même la peine de 10 ans. Il finissait sa peine au bout d'un an et il avait eu un sursis de 6 mois.
D'accord. Donc il allait sortir en plus.
Oui, il devait sortir. Qu'on me dit qu'il voulait se foutre en l'air, au moment de ses 10 ans, je comprendrais. Mais il avait passé le cap, c'était sa dernière année.
C'est... Quand on a fait 10 ans en prison, c'est rare.
Oui, je crois qu'on connaît le système, vous ne croyez pas le déroulement, comment ça se passe.
Normalement, quand un détenu a fait sa peine, une longue peine surtout, c'est très étonnant que quelques mois avant sa sortie, il mette fin à ses jours. Et puis, si vous voulez, ce que j'en pense, c'est que s'il n'y avait pas une embrouille là-dessous, vous n'auriez pas reçu tous ces témoignages. Vous n'auriez pas reçu une lettre, mais même si elle n'avait pas été signée de tous les détenus, quelques détenus, visiblement, vous ont contacté pour vous dire qu'il y avait quelque chose de pas normal du tout dans cette histoire.
Oui, c'est ça. Et le pire, vous savez, dès qu'ils ont tiré le corps de mon fils à la maison d'arrêt, j'ai appelé les pompiers. Et vous allez voir qu'il y a eu une fuite quelque part. J'appelle les pompiers et au moment que j'ai eu un pompier, il m'a dit « je n'ai pas le droit de divulguer quoi que ce soit ». Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu un ou deux jours, j'ai rappelé d'autres pompiers. S'il y avait quelqu'un, un collègue avec cette personne-là comme pompier qui avait débarrassé le corps de mon fils dans le mitard.
Oui.
Cette personne-là, vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous êtes qui? Alors moi j'ai dit « je suis la maman ». De Nicolas Kernis, donc que vous avez retiré le corps dans le mitard.
Mmh.
Après, il m'a dit, moi aussi, j'ai une maman. Et ma maman aurait voulu savoir dans quel état il était dans un mitard.
Dans quel état il était, vous avez dit, il y a une petite
dans quel état il était. Je voulais savoir.
Oui.
Et il m'a dit, soyez discret, parce que j'ai pas envie de perdre mon boulot.
Oui.
Mais votre fils, il était dans un piteux état. Des hématomes partout. Ils ont trouvé du sang. Ils ne pouvaient même plus le ranimer. Est-ce que vous voyez ce que j'ai entendu?
Bien sûr. Ah, ça, vous ne me l'aviez pas dit, ça. C'est,
non, mais c'est nouveau.
C'est très grave.
C'est nouveau parce que... Oui, c'est grave. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils pour en arriver jusqu'à là? Mon fils ne méritait pas ça. Ça valait pas une mort sur du shit et sur un paquet de cigarettes. Vous êtes d'accord avec moi?
Bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Bien évidemment.
Comment on peut en arriver là? Comment on peut ôter une vie pour un bout de shit?
Mais ça n'est pas pour ça. Ça, c'est le petit pupille. Je crois savoir que on parle d'une boulette de cannabis. Hein. On ne parle pas d'un méga trafiquant. On parle d'à peine 2-3 grammes de hashish. Donc,
oui, et vous savez, même là-dedans, les responsables, ils sont avec les détenus pour amener de la drogue.
Bah,
et
écoutez,
ils se permettent de faire des fouilles et tout ça. Mais... Et ôter la vie de mon fils pour ça.
Alicia, aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 15 jours, on a découvert un trafic de hashish qui a été livré par drone dans une prison. Donc on sait aujourd'hui qu'entre les téléphones et la paix sociale qui est achetée à travers justement l'existence de trafic de drogue à l'intérieur des prisons, on ne découvre rien là ce soir. Et ça n'est pas pour une petite boulette de shit que votre fils a perdu la mort. Soyez-en sûrs. Vous restez avec moi, on va laisser passer l'info, Alicia, et on continue d'en parler après, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Passé de 4 minutes, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. 7 jours sur 7, eh bien, vous êtes avec nous de 23h à 1h du matin, chers amis. Et vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Alicia qui nous avait appelé il y a quelques mois, puisque son fils est malheureusement décédé le 14 avril dernier, jour de son anniversaire, pratiquement à 2 jours près, puisqu'il est né le 12 avril, dans la nuit du 14 au 15. Le fils d'Alicia, donc votre fils Alicia, a été soi-disant retrouvé pendu dans sa cellule au mitard. Le souci, c'est que autour de la mort de votre fils, on a vu naître pas mal de témoignages de la part de détenus. Et puis, vous nous avez révélé avant le journal de Raphaël, qu'un pompier vous avait fait la confidence que votre fils était dans un sale état. Pourquoi pouvons-nous... On peut se poser plusieurs questions ce soir. Alicia. D'abord, on peut se demander pourquoi un pompier va aller vous raconter comme ça, sous le couvert de la confidence, que votre fils était dans un sale état, qu'il y avait du sang, qu'il avait des hématomes partout. Qu'est-ce qui a poussé ce pompier, à part le fait que ce pompier vous dit qu'il a une maman lui-même? Qu'est-ce qui peut pousser ce pompier à vous faire cette révélation? Qu'est-ce qui
comme
peut
ça,
pousser ce pompier d'autre que de vous dire que votre fils n'est pas mort dans des conditions normales?
Il a voulu me faire comprendre ça.
Bien oui. Sûr qu'il a voulu vous faire comprendre ça. Ce qui m'étonne dans tout ça, aujourd'hui, c'est que, encore une fois, lorsqu'il s'agit de problématiques avec la police, lorsqu'il s'agit de problématiques avec les surveillants du milieu carcéral, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires de police ou de justice, il n'y a que des saints. Et que finalement, il y a très peu de moyens, parce que visiblement, Alicia, vous avez porté plainte. Est-ce que vous avez fait quelque chose allant dans ce sens?
Le problème, c'est que... En ce moment, bon, j'étais quand même dans le deuil de mon fils, encore là, et j'ai été harcelée d'avocats qui n'ont pas arrêté de me dire qu'ils connaissaient l'histoire. Et je crois bien qu'il y a une fuite par rapport à tous ces détenus qui avaient des avocats et qui ont raconté l'histoire. Et ils ont donné mon numéro, je ne sais pas comment ils ont eu mon fixe, ils ont donné mon nom de famille. Et j'ai eu ces avocats qui voulaient absolument prendre cette affaire.
Mais pourquoi vous n'en avez pas choisi un, Alicia?
Ça y est,
vous l'avez fait.
Ce matin, un autre qui m'a appelé et je lui ai un petit peu parlé de cette histoire-là. Il est prêt à me rencontrer le 2 décembre.
D'accord. Est-ce que votre fille va venir avec vous?
Non.
Pourquoi?
Parce que ma fille, elle n'est pas battante comme moi. Et je peux vous dire, tu, Olivier ?
Oui, bien sûr.
Tu vois, moi, je n'ai pas le même chagrin que le père et ma fille. Mon chagrin, il est plus fort.
Oui.
Je suis une mère, je ne sais pas si vous comprenez.
Si, mais bien sûr que si, je comprends.
On n'a pas le même chagrin. Ma fille a le chagrin de sa sœur, en tant que sœur. Et le père, il a le chagrin en tant que père. Mais le père n'a jamais élevé ses enfants. Il n'y a que moi qui ai élevé mes deux enfants.
Oui.
Et je les avais sortis de la DAS aussi, tous les deux. Toute une histoire, vous comprenez ?
Ces deux enfants que vous avez adoptés ?
Non, c'est mes enfants qu'on avait placés à la DAS.
D'accord.
À cause du père, parce que le père n'était pas bien
vu. Il était maltraitant.
Par rapport à sa réputation. On
D'accord.
m'avait interdit d'avoir de contact avec les enfants. Alors que moi, j'ai fait le contraire. J'ai dit, mes enfants avaient besoin de leur père pour grandir. Ils en avaient besoin, comme moi, j'en avais besoin de mes enfants. On les avait fait à deux, alors on les partage. Voilà. Et on me les a retirés au moment du premier plan, après Noël. Et on me les a mis un an dans un foyer. Et je les ai retirés au bout d'un an.
Et vous les avez récupérés.
Première audience, j'ai perdu. Et la deuxième, ça a été en cours d'appel et j'ai gagné contre la DAS.
Donc vous savez ce que c'est que d'affronter l'administration.
Oui. Ça ne me fait pas peur,
D'accord.
je vous jure.
Parce qu'il vous faut absolument savoir ce qui s'est passé dans cette centrale d'Yvonne, près de Poitiers,
oui.
le 15 avril dernier. Il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut absolument qu'un juge entende les détenus qui, à cette époque-là, étaient là, qu'un juge entende les surveillants et qu'un juge fasse toute lumière sur la fameuse embrouille que votre fils avait avec un surveillant.
Oui, parce qu'il a même dit « je vais te plier ». Je ne sais pas ce que ça veut dire.
« Je vais te plier », ça veut dire « je vais te faire plier ». Ça veut dire beaucoup de choses, « je vais te plier ». Ça peut faire dire « je vais te faire fléchir », « je vais te faire plier
ouais, ».
C'est-à-dire
«
je vais te faire céder ».
Il lui a dit « tais-toi, je vais te plier ». Il a dit « tais-toi, je vais
Déjà,
te plier ».
Déjà, je vais vous dire, un surveillant qui parle à un détenu comme ça, ça n'est absolument pas normal.
Non, il n'a pas le droit, c'est un non-respect envers les détenus.
Mais chacun a des droits en prison.
Oui.
Vous voyez, les détenus ont des droits, les surveillants en ont aussi, et chacun doit respecter l'autre. Donc, à partir du moment où on respecte ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, on sait, hein, on n'est pas des bisounours, on sait que dans les prisons, il y a quand même pas mal de lascars qui parlent mal aux surveillants, qui tentent d'impressionner les surveillants ou de leur mettre la pression. C'est un métier très difficile. Mais ça n'est pas parce que c'est un métier difficile qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et surtout, de traiter un détenu pour que mort s'en suive. Parce que c'est trop grave.
Oui. Et tous les matins, c'était pareil. Ils étaient en train de faire pression sur mon fils parce qu'il y en a un qui avait envoyé un message à ma fille. Et tous les matins, c'était comme ça. Ils étaient à plusieurs. Et lui, il tenait comme il pouvait. Il a craqué. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ils ont trouvé le bout de shit. C'est là qu'a tout commencé l'affaire. C'est là qu'il tenait quelque chose pour en faire plus, pour rendre à bout mon fils.
Est-ce que la condamnation, le délit que votre fils avait commis, était en rapport, à votre avis, avec la haine supposée que certains surveillants avaient envers lui?
Je pense, oui, parce que c'était un pointeur, parce qu'on l'avait dit sur les dits de sa femme qu'il l'avait violée, je pense. Et alors qu'il n'y avait pas de preuve, rien, parce qu'ils n'ont jamais pu prouver pour le viol. Or que quand on entend des émissions dehors, il y en a qui violent, ils sont dehors en sursis, et mon fils qui n'a pas de viol, il avait violé personne, mais on ne l'a pas laissé se défendre, même devant les assises, on l'empêchait de parler. Il n'avait pas le droit de prendre sa défense.
D'accord.
De toute façon, ça vient de loin, tout ça.
Oui, ça doit venir de très loin.
Et il y a beaucoup de gens qui sont là-dessous. Parce que ma fille, enfin ma belle-fille, elle vit avec un gendarme, un policier.
Oui.
Qui est dans sa ville, vous comprenez ?
Votre fille ?
Ma belle-fille.
Votre belle-fille, d'accord.
L'ex-femme à mon fils.
C'est-à-dire la victime supposée de votre fils ?
Voilà. voilà, c'est elle qui a tout fait, qui a tout manipulé au départ pour envoyer mon fils en prison.
Bon, il a été condamné, il a fait...
10 ans. Voilà,
il a fait 10 ans et on ne va pas refaire le procès hein, de votre
non,
fils,
c'est pas la peine,
ni le procès
non.
de votre belle-fille. Ce dont on parle ce soir, c'est de la mort de votre fils.
Oui.
Et il avait fait 10 ans. Il avait fait combien déjà, là, sur sa peine ?
Il avait fait 7 ans.
7 ans. Bon, oui. Donc il avait exécuté sa peine. Comme on dit, il
oui.
avait payé. Vous,
oui,
de votre point de vue, on l'a fait payer autrement ?
Oui, oui. Et Nicolas, il n'avait pas le droit à ses erreurs. Comme tout être humain.
Je vais vous dire, Alicia, on va conclure, mais je vais vous dire, avec ce que ce pompier vous a dit ce jour-là, mmh. avec le témoignage des détenus, avec ses avocats, parce que vous savez, ça n'est pas coutume que des avocats prennent directement contact comme ça avec des potentiels clients. Mon frère est avocat, il n'appelle pas les gens pour qu'ils deviennent leurs clients. Vous voyez, c'est pas ce qui veut dire que je pense que ces avocats devaient être.
Je n'ai pas répondu à leur demande.
Non, mais je suis en train de vous expliquer que ces avocats devaient être les avocats de clients incarcérés avec votre fils.
Oui.
Et
oui,
ils ont dû
ça.
Apprendre qu'il y avait eu quelque chose de grave. Et c'est
oui.
pour ça qu'ils sont entrés en contact avec vous, parce qu'ils
oui.
se sont dit que là, il y avait une grosse affaire à prendre.
Oui,
une affaire qui va être médiatisée obligatoirement lorsqu'elle va éclater.
Oui,
c'est
oui.
obligé, parce que si on a mis à mort un détenu, on va en parler. La presse va en parler. La presse va
oui.
s'en en parler, va s'en emparer. Donc, je pense que ces avocats, leur démarche, elle était intéressée de ce point de vue. Parce que, voilà, un avocat qui traite une affaire médiatique, bon, eh ben ça... C'est bon pour lui, c'est bon pour sa publicité. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Donc ça y est,
Olivier,
en fait...
Olivier, je voudrais vous poser une question. Vous avez des enfants ?
Pardon ?
Est-ce que vous avez des enfants ?
Oui,
ou
bien sûr, bien sûr.
Est-ce que vous pourriez faire le deuil sans connaître
non,
cette histoire ?
Non, absolument pas.
Je ne pourrai jamais, tant que je n'ai... Même en connaissant cette histoire, je ne pourrais pas faire le deuil.
Je vais vous dire, si j'étais à votre place, je remuerais ciel et terre...
Oui,
et donc, je prendrai
faire.
Un avocat et je porterai plainte contre l'administration pénitentiaire
je vais faire.
Pour connaître la vérité. Pas parce que je hais l'administration pénitentiaire.
Non. Non.
J'ai des gens de ma famille qui travaillent dans l'administration pénitentiaire. Donc, ils savent très bien ce que je pense de ce métier, de ces métiers qui sont en lien avec le milieu carcéral, aussi bien le milieu de la police, de la gendarmerie, tous ces métiers qui sont... ma foi, des métiers de vocation, tellement ils sont devenus des métiers difficiles et dont 99% des fonctionnaires exercent bien ce métier. Mais le 1% qui reste et qui profite de ce badge ou de cette carte qui leur donne une toute puissance doivent être combattus et doivent être punis. Si, encore une fois, il y a eu quelque chose. Mais ce soir, vous qui nous écoutez, comprenez bien que nous avons une maman au téléphone. Et que si vous êtes père ou mère vous-même, je pense que vous seriez comme Alicia, ou comme moi, vous voudriez savoir ce qui s'est passé.
Oui.
Vous n'avez pas vu le corps de votre fils, Alicia ?
Non.
Mais
ils
pourquoi
l'ont gardé un mois dans un cercueil.
Pourquoi ?
Il s'est décomposé,
pourquoi
je vous assure, un mois, je n'en sais rien. Et en plus de ça, je suis tombée sur des policiers, mais vraiment inhumains. Si vous saviez ce qu'ils m'ont dit, je leur prenais la tête pour refaire un transfert du corps de mon fils en Bretagne. Vous savez, il y en a un qui m'a répondu. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Écoutez, Mme Carnet, vous commencez à nous prendre la tête. Comme ça qu'il m'a dit. J'ai dit d'abord, je ne m'appelle pas Carnet, ce que je lui ai dit. Quand je l'ai appelé. Parce qu'il disait, qu'il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Et je leur avais même pas dit mon nom. Simplement, je demandais le corps de Nicolas pour qu'il soit transféré en Bretagne. Et c'est là qu'il m'a dit comme ça. Moi, les miens n'ont pas fait de la prison.
Oui, bon, ça, vous savez, c'est vous tombez toujours sur des gens. Et...
Incroyable.
D'autant plus que si
plusieurs
vous voulez...
fois, je lui avais demandé. Et il ne voulait pas que le papier soit fait. Et il fallait que... C'était le procureur qui tenait tout en main. Tout en main. Il est resté un mois à la morgue. Et sa dépouille s'est décomposée dans le cercueil. On n'a pas vu. Et je vous assure, le cercueil, c'était une boîte d'écureuil. Je vous assure. C'était une boîte d'écureuil.
Bon, maintenant, maintenant, Alicia, ce qu'il vous faut, c'est suivre cet avocat, déposer plainte. Et puis lui, il va faire le reste. Hein ?
D'accord.
Hein ? C'est vraiment ce que je vous conseille de faire, ne lâchez rien.
Et comment il savait que je m'appelais le nom comme ça ?
Parce que
comment
je pense...
Comment il pouvait savoir alors que je ne m'étais même pas présentée ?
Parce que je... le policier, je ne sais pas.
Comment il a su ?
Parce qu'il devait y avoir dans le dossier de votre fils, né de Alicia Untel et de Monsieur Untel. Vous savez, dans les dossiers comme ça, il y a l'adresse, le nom des parents.
Mais lui, il connaissait mon nom de famille.
Oui, mais parce que c'était dans le dossier de votre fils, obligatoirement.
Ah, d'accord, ok.
Non, non, n'y voyez rien d'étrange. C'est que dans le dossier de votre fils, il y a toujours né de votre nom et celui du papa, son adresse, le lieu de sa naissance. Vous savez, il y a une enquête de fait qui est assez approfondie. Donc, on a sans doute remonté même aux origines de sa naissance, de qui vous étiez, ce que vous faisiez dans la vie et tout ça. Vous voyez ?
Ah, bien sûr.
Donc n'y voyez rien d'étrange. Ce qu'il faut maintenant, c'est se battre. Voilà.
Oh oui, que je vais me battre.
Et vous me tenez au courant.
Et je ne lâcherai pas. Et je ne lâcherai pas.
Bon, et n'oubliez pas qu'on est là et vous nous tenez au courant, Alicia, d'accord ?
Il n'y a pas de problème.
On vous embrasse et on vous envoie plein de force.
Merci bien.
Au revoir, Alicia.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir, Olivier.